Entourage, présenté par Kevin et Larbi. Une bulle d'intimité sur Beta Série, la radio.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Entourage. Un numéro quelque peu exceptionnel aujourd'hui puisqu'entièrement consacré à la série HBO de ce début d'été, le reboot de Perry Mason. Alors Perry Mason, c'est une série qui est produite par Robert Downey Jr. Hein, que vous connaissez tous d'Avengers, d'Iron Man ou encore de Sherlock Holmes. C'était une série très attendue, une série pour laquelle HBO a réuni tout un tas de talents divers, les producteurs de Game of Thrones, les producteurs de Rome, les acteurs de séries comme The Good Wife, comme The Americans, comme Brothers and Sisters. Avec bonheur, j'ai pu converser de Los Angeles à Paris il y a quelques jours avec la quasi-totalité de l'équipe artistique de Perry Mason. Nous allons donc parler de l'écriture de la série, de la production, du travail de recherche également des acteurs. C'est donc un podcast exceptionnel et je remercie d'ailleurs OCS pour sa confiance puisque Perry Mason, c'est une série que vous pouvez retrouver tout l'été sur OCS en US plus 24. Alors, Perry Mason, c'est quoi? Puisque c'est un nom qui doit certainement vous dire quelque chose, puisque Perry Mason, c'est une série culte hein, dans les années 50 aux États-Unis, avec Raymond Burr, une série qui a été multi-rediffusée en France, mais qui est peut-être moins populaire qu'aux États-Unis. Pour vous expliquer l'importance de Perry Mason aux États-Unis, c'est que, toujours à l'heure actuelle, elle fait partie des 5 meilleures audiences, toutes séries confondues, et de toute l'histoire de la télévision américaine. C'est vous dire l'attente de la part du public américain et du public sériephile autour donc de Perry Mason, qui commence ce week-end du 22 juin en France et aux États-Unis en même temps. Alors le pitch de Sherlock Holmes, j'allais dire, puisqu'il s'est produit par Robert Downey Jr. qui a fait Sherlock Holmes, c'est le pitch de Perry Mason qui ressemble un petit peu à cette ambiance moite des films de Tennessee Williams, même si ça se passe à la Nouvelle-Orléans. Là, on est à Los Angeles, mais dans les mêmes années, hein, en 1932. La Cité des Anges, elle est en plein essor, tandis que le reste du pays se remet de la grande dépression économique. Perry Mason est alors un jeune et modeste détective privé, torturé par la guerre, essayant tant bien que mal de se remettre de son mariage brisé. Lorsque l'enlèvement d'un enfant tourne mal, Perry Mason se saisit de l'affaire et part en quête de vérité à travers Los Angeles. Son enquête va alors révéler une ville fracturée, rongée par le crime et la corruption. Alors, vous le verrez, hein, Perry Mason fait écho à ce qui se passe dans le monde actuellement, et notamment aux États-Unis avec le mouvement Black Lives Matter. Évidemment, cette série aux moyens colossaux qui a été tournée sur 2 ans ne pouvait prévoir qu'elle sortirait au même moment de ces affaires, mais j'ai été obligé évidemment d'en parler avec les producteurs. J'en ai également parlé avec les showrunners qui ont auparavant travaillé sur différentes séries HBO. Ils ont évoqué avec moi donc le Black Lives Matter. Vous verrez ça un petit peu plus tard dans l'émission. Tout d'abord, ce que je vous propose pour entrer dans l'univers donc de cette série exceptionnelle, brillamment écrite, brillamment réalisée, brillamment mixée au son et brillamment monté. Pour entrer dans cet univers donc, de Perry Mason, allons tout de suite dans les années 20 aux États-Unis avec la bande-annonce de Perry Mason. C'est sur OCS depuis ce week-end.
I don't like it here. Everybody's up to something. Hiding something. Got an angle. And everybody is guilty.
Mr. Mason, an unspeakable act has visited upon us.
Why not leave it to the police?
I don't trust the Los Angeles Police Department to do the job.
The way I see it, there's what's legal, and there's what's right.
Bon, Voilà la bande-annonce donc de Perry Mason qui est diffusée sur OCS, la petite sœur française d'HBO. Ce sera toutes les semaines, durant tout l'été, en US plus 24, comprenez donc 24 heures après la diffusion américaine. Alors tout de suite, on va commencer notre discussion avec l'équipe artistique de Perry Mason, une série qui pour moi est la claque HBO de l'année, puisque c'est une série qui prend beaucoup référence sur la série originale, tout en changeant complètement et en allant beaucoup plus avant dans la noirceur et dans des thèmes très profonds, servi par des acteurs brillants comme ceux que nous allons écouter immédiatement. Il s'agit de Gail Rankin, elle joue Emily Dotson dans Perry Mason. Chris Chalk, qui est exceptionnel dans la série, il joue Paul Drake, il a déjà été honoré plusieurs fois, notamment par le Online Film and Television Association. Et puis Shay Whigham, qui joue Pete Sickland. Alors là encore, le Central Ohio Film Critics, le Gold Derby Awards, le New York Film Critics, voilà. Ce sont trois acteurs donc bien connus des sériephiles, des séries au thème profond. Avec eux, j'ai voulu justement parler de leurs références pour entrer dans le tournage. Ont-ils lu des livres, vu des films, regardé des séries? Et je vous propose tout de suite justement d'écouter leurs réponses.
Alors,
merci d'être avec nous. Effectivement, la diffusion de manière mondiale cette semaine prend de nouvelles significations au vu de l'actualité actuelle, que ce soit en France ou aux États-Unis d'ailleurs. Mais il y a quelques mois de cela, quelles étaient vos références pour rentrer dans ce tournage? Est-ce que vous avez lu des livres, des films, regardé la série originale ou des documentaires, ou est-ce que vous êtes allé librement suivant le scénario?
Je ne suis pas américaine, mais écossaise. Il est donc toujours important pour moi de faire des recherches lorsqu'il s'agit de culture américaine. Notamment sur la Californie de ce temps-là, entre corruption, prohibition et faits divers. De certaines manières, d'ailleurs, certains de ces aspects existent encore. Je parle ici du thème de la corruption, donc... Oui, effectivement, j'ai regardé beaucoup de choses en rapport avec ces thèmes très noirs, notamment le film Chinatown de Roman Polanski ou le film Assurance sur la mort de Billy Wilder. J'ai également dû faire un travail d'introspection dans la noirceur, bien que la série traite également d'espoir et de vérité.
Quant à moi, j'essaie de limiter mes explications sur mon travail de recherche. Il n'y a plus assez de mystère dans ce monde. Je n'ai pas trop envie de dévoiler ce qui se passe derrière le rideau, mais je peux vous dire ceci. Chaque vendredi, Tim, le producteur, a organisé des projections de Chinatown et d'Assurance sur la mort, justement. Et toute l'équipe était conviée, c'était pas une obligation. Cela nous permettait d'avoir des débats après la projection, et je pense que cela s'est reflété sur notre appréhension du personnage.
Chris Chalk.
Quant à moi, il y avait plusieurs choses que je devais rechercher, un peu comme Shea. Et je suis pas sûr qu'il soit bon d'en parler. Vous savez, si vous avez aimé le personnage, c'est que j'étais bon. Sinon, dommage pour moi, et dis-moi les livres que j'aurais dû lire. Mais il y a aussi quelque chose à quoi j'ai pensé. Ma femme a une immense famille, contrairement à moi, qui est une toute petite famille. Et quand je dis une immense famille, c'est qu'elle a vraiment une centaine de cousins et qu'elle les connaît tous. Et certains d'entre eux sont flics, certains d'entre eux ont 95 ans. J'ai beaucoup appris de leur expérience. Il y a un livre écrit par M. Kimbrough, qui était le premier officier de la police de Los Angeles, noir. Son histoire fut intéressante également à explorer. On pourrait résumer son livre à « Comment être noir avec encore moins de droits ».
Et puis ce rôle de Perry Mason, il est porté à bout de bras par Matthew Rhys. Matthew Rhys qui est l'un des plus grands comédiens de sa génération. Vous l'entendez à la petite musique derrière moi. Beaucoup d'entre vous le connaissent par son rôle de Kevin, le fils de Sally Field et frère de Calista Flockhart dans l'immense série Brothers and Sisters, probablement la meilleure série dramatique de ces 20 dernières années. Mais il a également reçu l'Emmy Award du meilleur acteur dans une série dramatique pour The American. Ce n'est pas la seule récompense de Matthew Rhys. Primetime Emmy Award, Broadcast Film Critics Association Award, Gold Derby Awards, Online Film and Television Association. Enfin voilà. Et pour la discussion que j'ai avec lui, il est rejoint par Tatiana Maslany. Tatiana Maslany, elle est exceptionnelle dans Perry Mason. Elle joue le rôle de la sœur Alice. Alors là encore, hein, c'est une comédienne connue du public sériephile et des critiques. Elle a été nommée au Emmy Award de la meilleure actrice dans une série dramatique pour l'immense série Orphan Black, mais elle a aussi reçu un Primetime Emmy Award, un Actor Award, un Blizzard Award, un Canadian Screens Award, j'en passe, et des meilleurs. Avec eux, justement, encore une fois, cette série est si complexe et les personnages, la construction narrative des personnages est si complexe sur plusieurs épisodes, des épisodes longs avec une moyenne d'épisodes de 60 minutes, même si certains peuvent atteindre presque 90 minutes. J'ai donc voulu également avec eux parler de leur travail de recherche, et vous allez voir, Matthew Rhys lit cela avec l'affaire O.J. Simpson d'ailleurs, ce qui me permettra à la fin de l'émission de vous donner une petite bibliographie, des livres à lire, des séries à regarder, un film de Clint Eastwood également qui me fait beaucoup penser à cet univers de Perry Mason. Mais tout de suite, je vous propose donc d'écouter Matthew Rhys et Tatiana Maslany autour justement de leur travail de recherche.
I just wondered.
Alors moi, je me demandais, parce que là encore, hein, comme d'habitude avec vous deux, le travail rendu, il est exceptionnel. Mais alors, comment fait-on en tant qu'acteur pour se glisser dans la peau de ces deux personnages qui sont très complexes? Est-ce que c'est par de la concentration, de la lecture, de la musique, des films peut-être, ou êtes-vous allé avec le script très librement?
Effectivement, je me suis renseigné sur différentes choses avant le tournage. Hein. Pour moi, le moment pivot du personnage, c'est la Première Guerre mondiale. J'ai donc beaucoup lu sur ce sujet. Je me suis également renseigné sur l'époque appelée dépression aux États-Unis, hein, à la fin des années 20. J'ai beaucoup lu, hein, sur les effets de cette crise sur Los Angeles, puisque ce moment d'histoire marque un avant et un après pour beaucoup de villes américaines. Et puis. Cette question est compliquée. Une autre grande influence pour créer ce personnage, hein, de Perry Mason est un avocat de la défense, hein, du comté de Los Angeles qui a vraiment existé, et il s'appelait... Évidemment, c'est au moment où tu me poses la question que je m'en souviens pas. Pourtant, je vous promets que j'ai passé beaucoup de temps à faire des recherches sur lui. Je suis sûr que son nom va sortir de mon esprit dans quelques minutes. Ah, quelle honte. En tout cas, c'est un avocat qui a plaidé pour beaucoup d'affaires très importantes à Los Angeles, comme l'affaire O.J. Simpson. Tous ces procès sensationnalistes. Ah, tu te souviens plus du nom pour mes recherches extensives? Dis-moi, Tatiana.
J'ai lu les livres de Amy Semple McPherson, qui a édité une collection de sermons. J'ai également regardé de multiples vidéos et écouté de nombreux audios d'elle qui prêche. Et puis j'ai aussi regardé le film There Will Be Blood avec Daniel D. Lewis, qui montre bien l'hystérie que peut soulever pour un public quelqu'un qui prêche. Et puis il y en a d'autres que je regardais, pour être honnête. Même quelqu'un comme Tina Turner pouvait m'aider pour ce rôle. Je m'inspirais de toutes les plus grandes showwomen pour me donner de l'inspiration. Et évidemment, beaucoup de lectures, comme Mathieu l'a dit, sur cette période américaine de la fin des années 90.
Voilà, Matthew Rhys, qui s'est évidemment illustré dans la série The American, une série dont les aficionados reconnaîtront juste derrière la musique du générique. Et alors à présent, on va parler, hein, de ce qui secoue l'Amérique actuellement. Il était hors de question pour moi de ne pas en parler avec ces showrunners-là, puisque Ron Fitzgerald, qui est le showrunner de Perry Mason, a également été le showrunner de Westworld, notamment des épisodes 3 et 7, épisodes fondateurs, hein, de la saison 2 de la série. Et puis Rodin Jones, avec eux, j'ai parlé du processus d'écriture, mais vous allez voir, on parle aussi du Black Lives Matter. Alors pourquoi j'en ai parlé avec eux? Ce n'est pas parler pour en parler, mais c'est que dans Perry Mason, on suit également la vie d'un policier joué par, qu'on a entendu tout à l'heure d'ailleurs, le personnage de Paul Drake. Ce policier-là, noir dans les années 20 et 30, fait bizarrement écho à la situation actuelle aux États-Unis. C'est donc une des raisons pour lesquelles, avec ces deux showrunners, Ron Fitzgerald et Ryan Jones, j'ai donc évoqué le Black Lives Matter.
Hi, Kevin from Paris. The show is wonderful.
Alors tout d'abord, merci pour cette série brillamment écrite, une série diffusée partout dans le monde et qui reflète certains des combats actuels aux États-Unis. Alors, pour parler de l'écriture de Perry Mason, le processus de script a-t-il été long et pourriez-nous vous donner des réflexions sur les parallèles entre la série et la situation actuelle hein, lors de la diffusion? Je pense évidemment au moment Black Lives Matter qui fait écho au prologue de l'épisode 2 de la série Perry Mason. Gerald.
Oh là, sacré sujet, hein. Bon, pour la première partie de ta question, je dirais que nous avons mis 2 ans à finaliser les scénarios.
Ryan Jones.
Oui, la période de pré-production a été assez longue, comme on arrive souvent dans ce cas-là. Mais oui, 2 ans, ça me paraît correct.
Fitzgerald.
C'est une question délicate. Hein. Effectivement, tout arrive en même temps, et pour ma part. Je suis très bien content que tout soit en train d'éclater et que l'on enlève certains œillères à notre société. Hein. En tout cas, en ce qui concerne la réalité de la vie pour ceux qui ne sont pas blancs. Évidemment, je mets en dehors de notre série, puisqu'il y a quelques mois, lors du tournage, nous n'avions aucune idée de ce qui aurait pu se passer au moment de la diffusion. Nous voulions juste raconter l'histoire de ce policier, Paul Drake, qui s'avère être noir, et nous voulions raconter sa vérité en 1932. C'est vraiment ça que l'on voulait raconter. Hein. Il ne s'agissait pas de changer le monde ou je ne sais quoi d'autre, il s'agissait juste d'être honnête en racontant la vie de cet homme, à ce moment donné de sa vie, et le fait qu'il semblerait que rien n'ait vraiment changé en 100 ans, putain, c'est désespérant. J'espère que tout le bordel qui est en train d'arriver aux États-Unis actuellement nous permettra de sortir plus grand et plus réfléchi dans notre société. That we find that our world
for us over here changes. Ryan Jones.
Yeah. Oui, effectivement.
Yeah, I mean maybe we're.
Je pense que nous sommes peut-être à une résonance de ce qui se dit dans la rue. Que ces problèmes existent depuis bien longtemps sur le sol américain et qu'il est grand temps d'y remédier.
For a long, long time. Here it is, something set 90
Notre histoire
years ago,
se situe il y a 90 ans. Pourtant, les méthodes de la police, les méthodes d'utilisation d'un pouvoir individuel sont en beaucoup de points similaires. On a fini par raconter l'histoire de 3 personnages qui n'ont pas tant de pouvoir que ça, mais qui se réunissent pour une cause plus importante qu'eux-mêmes. Mais il y a énormément de choses qui n'ont pas changé depuis l'époque que nous dépeignons dans notre série. Et pas seulement les conflits raciaux, mais aussi économiques.
Stuff that's happening today that hasn't
On parle à un moment donné
racial issues, there's a lot of just economic issues. We have
On parle à un moment donné dans la série de ces taxes hein, appelées Hoover. Et aujourd'hui, nous avons d'immenses campements de personnes sans abri partout dans Los Angeles. Ces 90 dernières années de capitalisme aux États-Unis n'auront pas aidé à résoudre ces problèmes. Évidemment, nous n'y pensions pas hein, durant le tournage, mais notre série sort en même temps que ces événements, et bien que ce soit une coïncidence, nous devons les lier.
Fitzgerald.
Je suis quand même content qu'on en parle. Hein. Même si on est en train de parler de Perry Mason à la presse en ce moment, et que l'on est content de le faire, et que nous devons le faire, c'est un peu dérisoire au vu de l'actualité mondiale.
It's very inspiring, thank you.
Voilà pour la réponse très complète hein, de ces showrunners, des showrunners brillants, et vous le verrez hein, justement à la diffusion de ces épisodes, tous brillamment écrits, brillamment construits et brillamment mis en scène. Vous entendez derrière moi, pendant que je vous parle, un extrait de la bande originale d'Un tramway nommé Désir, Un tramway nommé Désir, film d'Elia Kazan de 1950 avec Marlon Brando. Pourquoi je décide de vous mettre cet extrait musical? Eh bien parce que la forme, plus que le fond, de Perry Mason me fait beaucoup penser, hein, je vous le disais en début de cette émission, à l'ambiance suave de la Nouvelle-Orléans, de Tennessee Williams et au costume également et dans la direction d'acteur ce Perry Mason me fait beaucoup penser à du Tennessee Williams et justement du Tennessee Williams dans la construction du personnage était un metteur en scène et un auteur très complexe exactement comme dans cette série Perry Mason et je voulais demander à Stephen Root et Veronica Falcon alors Stephen Root il a été lauréat du Gold Derby Awards et Veronica Falcon qui joue un rôle extraordinaire dans Perry Mason le rôle d'une Latina, comme rarement un rôle de Latina a été écrit à la télévision. D'ailleurs, surveillez bien, puisqu'à mon avis, il n'est pas impossible qu'elle ait l'Emmy du meilleur second rôle dans une série dramatique dans quelques mois. Je voulais donc leur demander, par rapport à cette écriture dense et complexe, leur première réaction à la lecture des scénarios de Perry Mason. Alors, j'aimerais aller plus avant sur le thème de l'écriture de la série avec vous deux, parce que je la trouve vraiment brillante. Comment est-ce que vous avez réagi à la lecture de la première version des scénarios? Qu'est-ce qui vous a surpris? Alors, évidemment, on ne va pas donner d'éléments clés de l'intrigue, mais peut-être que je pourrais reformuler ma question en vous demandant quels furent les challenges en tant qu'acteur à la lecture des scripts.
Pour moi, la première raison d'accepter ou non un rôle, ça reste la qualité de l'écriture du scénario. Sinon, tu ne fais quatre plantes et là, avec ta bouche ouverte. C'est donc primordial pour moi de respecter les auteurs en rendant justice avec une écriture rigoureuse. Accepter un rôle, c'est aussi tomber amoureux de son personnage. Si vous n'avez pas d'intérêt pour le personnage, ça ne sert à rien de le faire, car vous ne serez pas non plus intéressant pour la série. Ce qui est formidable dans cette série, c'est qu'il y a énormément de triples lectures et intrigues pour chacun des personnages, des faits parfois méconnus dans les années 50 lors de la diffusion originale. Je pense notamment à tout le drame familial autour du personnage de Paul Drake, mais aussi de la vie de Della Street. On ne voyait pas tout dans la série originale. Mais là, on le voit à cause d'une écriture très dense et très intelligemment construite. C'est une des raisons pour lesquelles les gens auront envie de revenir semaine après semaine, car on a envie d'en savoir plus sur l'avenir de chacun des personnages. Je pense que c'est là que réside le génie de l'écriture de Perry Mason.
Je suis complètement d'accord avec ce que vient d'être dit par vous deux. Je pense effectivement que c'est une série brillamment écrite. Pour moi, quand je lis un scénario de cette qualité, je m'identifie immédiatement au personnage. Ça m'émeut de suite. Et je sais à ce moment-là que je suis faite pour le rôle. C'est quelque chose de très instinctif et de très organique. Et si un scénario a cet effet sur moi, alors il l'aura aussi sur le public. Si j'ai une connexion immédiate avec l'histoire, alors le public l'aura aussi. Et quand un scénario est d'une telle qualité, il faut vraiment être un très mauvais acteur pour ne pas lui rendre hommage. Ça peut arriver parfois. J'ai immédiatement été séduite par Loop. Ce genre de personnage, il est rare qu'on le rencontre, surtout pour les tournages d'époque. Tu m'entends bien ?
Oui, je vous entends.
Ah ok, parce que je suis un peu un dinosaure avec Zoom. Comme je le disais dans les scénarios d'époque, il est rare de trouver des personnages comme Loop, des femmes qui plus est Latina. Ces personnages sont toujours écrits d'une certaine manière stéréotypée. Et pour trouver ce diamant de personnage, cette femme indépendante et maîtresse de son propre pouvoir, une femme comme cela dans les années 30 et Latina, c'est exceptionnel dans un scénario. Et puis au-dessus de tout ça, il y a quand même cette équipe, une équipe pleine de talents à tous les niveaux. Probablement les gens les plus talentueux du métier. Pour être honnête, je remercie ma bonne étoile. Un scénario excellent, entouré d'artistes excellents, et une nouvelle fois pour moi, le meilleur personnage écrit pour une Latino depuis bien longtemps. J'ai vraiment de la chance, vraiment.
When that Pharaoh chariot comes, I'm gonna leave you.
Voilà, rajoutez peut-être également, puisque vous entendez derrière moi Goodbye Song from Harriet, qui est l'une des compositions du compositeur de la série Perry Mason, un film il y a quelques années. La musique est un élément clé de l'histoire de Perry Mason. C'est un personnage à part entière, un petit peu comme la ville de Los Angeles. Et pour aller donc plus avant dans la discussion avec les acteurs de la série, dans cet entourage consacré à Perry Mason, qui, je le rappelle, sera diffusé en US plus 24 sur OCS depuis le 22 juin et ce pour tout l'été. Alors là, je suis très content puisque j'ai pu m'entretenir avec deux acteurs que j'adore. John Lithgow. Alors John Lithgow, pour si vous écoutez l'émission Entourage, c'est que vous aimez les séries au thème profond, je pense. Donc vous l'avez forcément vu dans la série The Crown, dans laquelle il joue brillamment Winston Churchill. Il est d'ailleurs lauréat de différents prix du Emmy Award, d'ailleurs du meilleur acteur dans un second rôle dramatique, mais également de Golden Globe et de Primetime Emmy Award. C'est également le père de James Franco dans l'immense reboot, remake plutôt, La planète des singes de 2011, mais il a plus d'un demi-siècle de cinéma derrière lui. C'était donc un bonheur de pouvoir parler avec lui, également avec Juliette Rylance qui joue Della Street. C'est une révélation dans Perry Mason, cette actrice, souvenez-vous de son nom, Juliette Rylance. Avec eux, encore une fois, je voulais évoquer leur travail de comédien, peut-être au-delà des recherches, de leur mise en condition, puisque ce sont des rôles très complexes avec des séquences très longue, sur plusieurs mois de tournage, hein, je vous le rappelle, avec des moyens colossaux pour une série policière, bien que dramatique. Je voulais donc savoir avec eux comment ils ont apprivoisé leurs personnages et comment ils se sont mis en condition les matins du tournage.
Hi, bonjour.
Alors, vous êtes tous les deux extraordinaires dans Perry Mason, comme à vos habitudes. Vous venez d'évoquer avec mes petits collègues de la presse étrangère la qualité du scénario, mais pour aller dans quelque chose de plus technique, j'imagine que le tournage fut long et intense. Alors, comment avez-vous apprivoisé ces personnages sur plusieurs mois de tournage? Je pense ici à la mise en condition en tant que comédien. Ces personnages, ils sont complexes. Alors, est-ce que la musique, la lecture, la méditation vous ont aidé pour aborder vos constructions respectives?
C'était assez facile. Au final, hein. Plus que certains autres rôles qui ne demandent qu'à aller aux essais costumes, puis avoir la bonne coupe de cheveux ou se faire tailler la bonne taille de moustache, arriver sur le plateau à l'heure et connaître son texte. Ici, beaucoup du travail a déjà été fait en amont et je parle exprès du département des costumes et du maquillage. Hein. Emma Potter, la créatrice des costumes, a fait un travail formidable sur les personnages. En fait, elle nous a livré clé en main nos personnages.
Emma Potter, who outfitted us, she just sort of delivered our characters to us on a things like that.
Grâce à un tel travail, on ne peut qu'être habité par le personnage. Il faut dire également que l'écriture relève du génie, et puis il y a cette liste d'acteurs extraordinaire. Quel bonheur de travailler avec ces gens-là. Ils vous aident à donner vie au caractère, au personnage. Je pense notamment à Stephen Root. Stephen Root est un acteur qui est complètement fasciné par les grands classiques du cinéma et par la technique de jeu des acteurs dans ses films. J'ai l'impression que ça se ressent dans son rôle du procureur Barnes. Et toi, Juliette, qu'en penses-tu?
Oui, je pense également que les œuvres dites d'époque sont importantes pour aborder ce genre de personnage. Et comme l'a dit John, les costumes sont extraordinaires. Emma a fait un travail incroyable. Elle est allée jusqu'à chercher de vrais sous-vêtements de l'époque. Tout ce que l'on portait nous faisait sentir différent. On marchait d'une autre manière, on s'asseyait d'une autre manière, on bougeait d'une autre manière. C'est donc quelque chose qui aide beaucoup, car on se sent immédiatement comme un autre personnage. Pour ma part, j'avais également cette perruque que l'on a mis du temps à choisir. Il fallait qu'elle soit parfaite. Donc en parler avec le département des costumes, faire ce travail de coopération avec Emma, ça a été fondamental pour la construction du personnage. Je me souviens très bien du premier jour de tournage, car pour moi, le procédé de pré-production est passé très vite. Et lors de ce premier jour, je me suis dit « Ah, mon Dieu, on y est déjà, suis-je assez prête ?» Et puis Matthew, ce formidable être qui est Matthew, m'a tout de suite apaisé par son humour et en me disant « Bon, maintenant il faut le faire et on verra comment ça va se passer. » Je me souviens, il y avait une prise durant laquelle nous devions marcher dans un grand couloir. Et on l'a fait encore et encore avec d'autres personnages qui interagissaient en même temps. On ne s'est pas regardé de toute la scène, on regardait devant. Et je me souviens avoir ressenti ma démarche dans ses chaussures. Je me suis dit, je suis elle? Et c'est un sentiment génial. Et je me souviens m'être retournée, en avoir parlé à Matthew et qui m'a dit, je te comprends, moi ce sont mes bottes que j'adore. On était bien dans nos baskets, au sens littéral comme figuré. Et puis évidemment, il y a toutes ces autres petites choses plus personnelles. Moi, par exemple, je fais des annotations sur mon scénario. J'y écris des millions de choses. Pour chacune de mes répliques, j'ai toujours des petites actions que je rédige à côté au cas où. Mais la plupart du temps, on fout tout ça à la poubelle. Mais je dois quand même avouer que je travaille avec John et Matthew et c'est assez exceptionnel. John, tu es un tel maître, un tel roi. Tu es d'une humeur constante, toujours joyeuse et dans la recherche du jeu avec ton partenaire, ce qui est une aide monumentale. C'est un bonheur de travailler chaque jour avec un acteur qui a cette dynamique de jeu et ce timing dans la comédie. Quelqu'un qui est capable d'aller dans la nuance et dans des choses très profondes en un millième de seconde. Des acteurs comme toi nous sortent de notre propre construction de jeu et nous permettent d'être à l'écoute et de créer ensemble.
Extraordinary partner opposite you. I think that's a big key of
creating something that's alive.
Oh, Juliette.
Ah, Juliette, je suis tellement mal à l'aise d'entendre tout ça.
Oh, je sais, je sais.
I mean, the EV.
C'est absolument adorable de ta part. Il est vrai que l'histoire et la tension qui lie nos deux personnages dans la série est un cadeau pour nous deux en tant qu'acteurs. Ce sont deux personnages qui se crient dessus, ne sont pas d'accord, mais pourtant sont dans un lien constant. Quel bonheur de travailler cette construction narrative.
Quel bonheur d'avoir pu parler à John Lithgow, qui est aussi excellent comédien que c'est une personne formidable. C'est ce que j'ai pu voir donc dans ce petit duplex avec Los Angeles enregistré il y a quelques jours. Pour les plus sériphiles d'entre vous, ces deux noms vont forcément vous dire quelque chose. Suzanne Downey et Tim Van Patten. Pourquoi vous diraient-ils quelque chose? Eh bien, tout simplement parce que à eux deux, ils ont produit et mis en scène certaines des séries les plus importantes et les plus influentes de ces 20 dernières années. Tim Van Patten a été notamment nommé pour le Emmy Award de la meilleure réalisation pour une série dramatique, c'était Boardwalk Empire. Et puis c'est surtout le showrunner qui a lancé avec HBO une certaine petite série appelée Game of Thrones, avec un pilote qui pour moi reste le meilleur pilote de tous les temps pour une série dramatique, celui donc de Game of Thrones, L'hiver vient. Et Suzanne Downey, une autre productrice qui a beaucoup travaillé pour HBO. Avec eux, je voulais justement leur parler de ce qui frappe à l'œil dès qu'on voit le pilote de Perry Mason, hein, qui est un pilote extrêmement réussi, tout comme les autres pilotes de ces deux producteurs. Je voulais aborder avec eux la complexité d'un tournage qui demandait de recréer un Los Angeles dans les années 30, mais qui demandait également une précision dans chaque détail de département artistique, ce qui fait évidemment le succès d'une série, des séries HBO, leur signature d'ailleurs. Suzanne Downey et Tim Van Patten donc, me répondent donc sur les complexités de production de Perry Mason.
Thank you for such an amazing show.
Alors, bravo pour cette série splendide. Je voudrais avec vous deux aborder des questions de production, parce que cette série, elle a de multiples décors, des décors historiques, avec du coup des accessoires d'époque, des costumes d'époque. Alors, le travail de production, est-ce qu'il a été long? Et à quel point est-ce que c'était difficile de gérer ce planning de tournage, tout en respectant tous les éléments historiques très nombreux, et ce, dans tous les départements artistiques?
J'ai passé les 20 dernières années quasiment complètement au sein de HBO. J'ai donc eu la chance de travailler sur différents projets dans lesquels nous avons recréé la Rome antique, dans la série Rome ou l'époque médiévale avec Game of Thrones. J'ai toujours travaillé sur des séries à la production dense sur tous les niveaux. Et certaines de ces séries, comme Game of Thrones, étaient produites dans différents pays. Pour Perry Mason, au moins, tout se déroulait à Los Angeles. C'était une bonne chose. Mais pour moi, quand il s'agit d'une série d'époque, il faut toujours raisonner en se disant qu'HBO fera quelque chose à part. Ils vous donneront toujours tout pour que vous puissiez atteindre ce qui est essentiel pour ce genre de projet, et notamment l'attention portée aux détails. Cela commence par le tissu que tu choisis pour chaque costume, en passant par le visuel, des décors, et comment créer une homogénéité dans tous ces domaines. On commence donc par avoir la chance d'être soutenu par HBO, avoir une excellente équipe de production, d'excellents auteurs, de bonnes personnes en charge des différents départements artistiques. En fait, c'est comme une formule mathématique. Il suffit de cocher les cases. Est-ce que j'ai les personnes les plus talentueuses autour de moi? Est-ce que je m'entoure pas de personnes à l'ego surdimensionné? Et puis, on crée une famille, une équipe, et on commence à créer un monde. Et pour moi, c'est une véritable addiction. Je ne pourrais pas faire ça avec seulement deux personnes en réunion ou avec une série aux moyens modestes. Je n'ai rien fait de contemporain depuis plus de 10 ans. Ma recette, c'est d'être entouré d'artistes aussi talentueux que bienveillants.
Ouais, je suis d'accord. En tant que spectatrice, quand je regarde de la télévision ou du cinéma, je me demande toujours comment ils ont réussi à ce que tout ça fonctionne. Et puis je réalise à un moment donné que c'est mon métier et que moi aussi je fais ce genre de série ou ce genre de film.
The truth is, like Tim said, you find the best people who.
Donc, on espère toujours que, d'un point de vue extérieur, le public se demandera comment on a réussi à assembler tout cela en une seule et même œuvre. Mais comme Tim vient de le dire, il faut trouver les personnes les plus talentueuses qui pourront mieux partager votre vision. Tout le monde a un rôle dans une équipe de tournage. Il y a beaucoup de corps de métiers différents, et s'ils sont chacun doués dans leur domaine, que tout le monde communique et que l'on a tous le même but à atteindre. Pour arriver à quelque chose d'authentique, comme nous le voulions, alors tout s'assemblera facilement. Encore maintenant, même si tu as déjà découvert la série, on travaille encore sur la post-production de certains éléments. Je vois notamment des effets spéciaux que je n'avais pas vus avant, des couleurs que l'on imaginait sur le plateau, mais qui n'apparaissent qu'à la télé-nage. Tout prend vie, même si c'était déjà le cas sur le plateau grâce à l'équipe, des décors, des costumes, du maquillage et même du casting. Mais ensuite, d'autres éléments s'ajoutent, le son, les effets spéciaux. Tout prend une autre dimension. C'est donc un processus. Travailler en équipe avec les meilleurs et déjà tu es sur la bonne voie.
By the end, yeah, you hope you have something that makes people go, how did they do that? But it's a process. It's just a process. Get the right people and you're on the road.
Voilà les deux producteurs hein, brillants de Perry Mason. Vous l'aurez compris, je ne peux que trop vous conseiller de regarder cette série. Alors, j'ai personnellement, pour préparer ces discussions, quelque peu exceptionnelles, vous l'aurez compris, j'ai donc pu, grâce à OCS et HBO, voir les 8 premiers épisodes de cette série, qui durera donc tout l'été en US plus 24, sur OCS en France et HBO aux États-Unis. Une série brillamment écrite et réalisée. Et là encore, surveillez les Emmy Awards dans quelques mois, puisqu'à mon avis, les acteurs, les producteurs, les scénaristes, mais aussi le département des costumes, vous avez compris hein, dans cet entourage à quel point le travail de précision sur les costumes et les décors a été important pour recréer ce Los Angeles dans les des années 30. À mon avis, tous ces départements artistiques-là vont être nommés aux Emmy Awards et il y aura, à mon avis, bien que la série soit très chère à produire, mais à mon avis, il y aura, puisque les critiques sont assez phénoménales dans le monde entier, il y aura d'autres saisons de Perry Mason. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite pour le bien de notre culture. Je voudrais remercier les équipes d'HBO, mais surtout les équipes d'OCS, Alan Closier notamment, et Baptiste, qui m'ont permis de réaliser ces entretiens de Los Angeles à Paris dans un contexte un peu particulier pour tout le monde actuellement. Je vous rappelle donc que Perry Mason est disponible sur OCS en US plus 24. Si vous voulez réagir à cette émission, nous donner vos avis sur Perry Mason, évidemment, vous pouvez commenter les articles du journaliste Hugo sur Beta Série, mais aussi réagir sur Twitter @BetaSérie, @KevinElarbi avec le hashtag Entourage avec un S. Entourage d'ailleurs, suite à ce qu'il s'est passé dans le monde entier ces derniers mois. Entourage qui va continuer hein, dans l'été. On ne va pas se quitter là en ce mois de juin. Donc, on vous proposera des podcasts exceptionnels tout au long de l'été. N'hésitez pas à nous faire part de vos demandes également sur Twitter. Alors, pour aller plus avant, puisque certains d'entre vous me demandent au terme de ces podcasts, quand ils ont vu les séries, s'il y a des livres à lire pour pouvoir comprendre plus la série, s'il y a peut-être des films à regarder. Alors, je vous le disais en début d'émission, dans l'ambiance, la série Perry Mason me fait penser à toutes les œuvres de Tennessee Williams. Mais si vous voulez aller plus avant dans ce thème de la corruption et de la prohibition aux États-Unis à la fin des années 20 et des années 30, cette série me fait beaucoup penser à un film de Clint Eastwood qui est passé un peu inaperçu en France, et c'est bien dommage parce que ça concerne la culture populaire et américaine, la culture vraiment populaire américaine et pas vraiment celle française, c'est le film J. Edgar, un film qui est sorti en 2012 en France, réalisé par Clint Eastwood, et à mon avis c'est la prolongation parfaite de ce Perry Mason avec des histoires très différentes, bien que là encore l'histoire du crime dans Perry Mason avec ce bébé nous fait penser au bébé de Charles Lindbergh, et c'est aussi mis dans J. Edgar. Donc je voulais vous quitter avec une bande-annonce française, celle de J. Edgar, pour vous dire que si vous avez envie d'aller plus avant et de comprendre surtout ce temps-là de l'Amérique, regardez ce film brillant et brillamment écrit avec Leonardo DiCaprio de Clint Eastwood. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro d'Entourage. Je remercie Anthony qui s'est occupé du son de cette émission, Anthony Navarro. Je remercie Mathilde Dandeux qui m'a aidé à écrire cette émission. Et je remercie à la production ainsi qu'à la traduction Rémi et Claudia de Beta Série. Regardez Perry Mason, vive les séries et à très vite sur Beta Série.
Quand la moralité décline et que les braves gens ne font rien, le mal prospère. Une société qui refuse de tirer les leçons du passé est condamnée. Nous ne devons jamais oublier notre histoire. Nous ne devons jamais baisser notre garde.
Edgar, tu vas devenir l'homme le plus puissant de ce pays.
J'ai la conviction que quand un homme devient membre de ce bureau, il a le devoir de se conduire constamment, de manière à éliminer la moindre possibilité de critique. Quant à sa conduite...
Monsieur Tolson, j'ai besoin de quelqu'un à qui je puisse me fier. Je veux que vous soyez mon numéro 2. Vous comprenez, j'ai besoin de vous.
Imaginez si chacun des citoyens de ce pays pouvait être identifié à coup sûr d'après le motif qu'il a sous les doigts. Imaginez comme on le retrouverait rapidement s'il commettait un crime.
Vous vous souvenez ce dossier que nous avons ouvert sur sa femme ?
Madame Roosevelt.
Vous m'en faites une copie, je vous prie.
Est-ce légal ?
Il faut parfois faire une petite entorse à la règle pour assurer la sécurité de son pays.
Laissez-moi les transcriptions, je vous prie.
N'hésitez pas à en faire part à votre frère, Monsieur Kennedy. Faites-lui savoir que j'ai une copie personnelle. Le président a peur.
Toute l'admiration du monde ne peut remplir un cœur d'amour.
Nous sommes les pêcheurs, Edgar. Nous avons toléré l'anarchie sur nos terres jusqu'à ce qu'elle prenne des proportions diaboliques. Tu as du sang sur les mains, Edgar.
Quelles sont vos qualifications précises pour le poste de directeur du FBI ?
Mes qualifications, monsieur ?
Je ne sais plus à qui je peux me fier.
Je vois clair en toi ! Tu es un petit homme horrible, effrayé et sans cœur !
Ne te flétris pas comme une petite fleur. Sois fort.
Oui, mère. Il est temps que cette génération apprenne la différence entre le méchant et le héros. Même les grands hommes peuvent être corrompus.
Entourage, présenté par Kevin Ellarby. Une bulle d'intimité sur Beta Série, la radio.